la retraite, sans doute des reprises de choses que vous connaissez, mais qui peut être bon d'avoir à l'esprit, les voir d'un seul tenant. Et puis des conseils aussi pour plus spécialement les résolutions. Alors là, il y a matière à résolution pour les jeunes filles pour acquérir la stabilité. Alors vous pourrez prendre ça notamment, donc c'est sûr. C'est dans la prolongation de votre instruction de ce matin. Des conseils pour les jeunes filles et les moins jeunes. Bon. Et puis, une très belle lettre. Oui, je me souviens, en 97, là, M. l'abbé Simoulin avait fait une très belle lettre à l'occasion de la fête des mères. La vocation de la femme. C'était une magnifique lettre. Enfin, c'était très, très beau. De l'instruction. J'en reprends une pour moi parce que je dois m'en servir un peu demain aussi. La première chose qui me semble fondamentale dans notre vie spirituelle, c'est la visée. La visée. C'est bien évident que si vous avez une fausse conception de la perfection, vous ne progresserez jamais. Où vous progresserez de façon bancale. Donc il est très important, c'est pour ça que vous avez plusieurs instructions à la retraite qui traitent des vertus morales, des vertus théologales, de la grâce, de voir la vie chrétienne sous divers aspects, mais divers aspects qui concourent tous à la même fin. La fin c'est quoi? Ben, nous le savons, c'est de connaître et d'aimer Dieu de tout notre cœur, toute notre âme, hein, et parce que nous le connaissons et nous l'aimons, nous, et que nous sommes des créatures, le servir. Voilà, c'est la première chose du catéchisme. Donc en gros, la charité envers Dieu, voilà, c'est un seul commandement, la charité, qui a deux objets. J'ai dû vous le dire, probablement, dans la vertu théologale. Dieu, le prochain. Voilà. Et Dieu est dans le prochain à cause de Dieu. Alors tout ça, ça doit mettre une atmosphère dans notre vie spirituelle. Une adhésion au bien et un éloignement de ce qui est contraire à cette fin. Vous avez exprimé peut-être de façon un peu négative, mais très réaliste, le tout premier chapitre d'introduction au combat spirituel. Ce qu'est la perfection, ou bien l'union à Dieu ou la vie de Dieu en nous. Voilà. Ouais, mais le but à atteindre. Et plus ce but est connu clairement, profondément, intensément, plus ensuite tous les moyens qu'on va prendre en vue d'atteindre ce but seront efficaces. Et les moyens seront d'autant plus efficaces qu'ils seront joints plus efficacement à cette fin. Et ça, ça a beaucoup d'importance dans les résolutions particulières. Nous avons une religieuse ici, et le père Eugène, à la fin d'une retraite à des religieuses, demandait, ma sœur, quelle résolution avez-vous prise? Et alors la sœur avait dit, bien, elle avait choisi une oraison liturgique, bon, qui avait sa valeur, mais alors j'ajouterai une toute petite prière vocale à tout ce que je fais déjà. Alors Seigneur, le père Eugène l'a regardé avec un petit air, dire, bon, elle avait pris, alors, bon, on peut prendre, c'est sûr, si cette prière évoque, synthétise, comme on le dira peut-être un petit peu plus tard, qu'il c'est bon d'avoir un mot d'ordre, par exemple. Petite devise, c'est très bien ça, qui encourage, qui électrise un peu l'énergie de l'âme. Mais elle avait pris, si vous voulez, l'idée pourquoi il lui avait fait un reproche sur ça, c'est qu'elle avait pris un tout petit point qui n'était pas le point important de sa vie spirituelle, hein, qui était une partie seulement de sa vie spirituelle, et vraiment un point de détail qui n'était pas significatif par rapport à ce qu'elle avait réellement besoin. Et comment est-ce qu'on prend conscience de ses vrais besoins? Bien, quand on se regarde vraiment par rapport à la fin, qu'est-ce qui me manque pour que j'aie la charité totale? Qu'est-ce qui me manque pour que j'aime mon prochain, indépendamment de mes sentiments d'agrément ou de désagrément vis-à-vis de lui? Oui. Qu'est-ce qui me manque pour que je m'aime moi-même? Ça, on ne le dit pas trop, parce que s'aimer moi-même, dans le vocabulaire depuis le 17e, ça veut dire amour égoïste. Mais non, quand j'aime bien Dieu et que j'aime bien mon prochain, je m'aime moi-même comme il faut. Voilà. Mais il y a un ordre. D'ailleurs, on nous dit, d'ailleurs, le Seigneur, avant de nous dire... Vous aimerez votre prochain comme Jésus l'a aimé. Il vous dit, vous aimerez votre prochain comme moi, comme vous-même. Si vous-même, vous vous aimez pas en Dieu, bah, il y a de fortes chances que votre amour pour Dieu et votre amour pour le prochain va s'en ressentir. Ça, c'est... Dis-moi comment tu t'aimes toi-même et tu aimes ton prochain, et je te dirai à peu près comment tu aimes Dieu. les causes sont concomitantes, sont concourantes, conjointes. Alors, donc bien faire attention qu'il y ait bien cette vue générale sur l'amour de Dieu et sur ce qu'il suppose. Dans notre vie, l'amour de Dieu va supposer du sacrifice. Bien sûr, forcément. Oui. Alors, pour les uns, ils sont naturellement, il y a des personnes naturellement ordonnées aux autres, je dirais, qui ont une certaine générosité vis-à-vis des autres. D'autres qui sont plus introvertis ou intravertis. Bon. Alors, forcément, les uns vont mettre peut-être une tendance à perfection dans leur perfectionnement personnel, ce qui n'est pas une chose mauvaise en soi, à condition que ce ne soit pas égoïste et égocentrique. Et d'autres dans seulement le service des autres. Alors, le risque chez le service des autres, c'est évidemment l'activisme, on court partout et on s'occupe pas beaucoup de sa vie intérieure. Et puis celui qui est trop sa perfection personnelle, bah il va tellement penser à sa perfection personnelle qu'il risque d'avaler le prochain, quoi. Hein? Selon cette parole Saint Augustin, quand tu prétends m'aimer et que tu n'aimes pas mon prochain, tu es semblable à cet homme qui tient la tête de quelqu'un qu'il aime et qui lui marche sur les pieds avec des gros souliers cloutés. Et tu t'étonnes que je fasse une grimace. Bien que tu embrasses ma tête, tu écrases mes pieds. Voilà. L'image de Saint Augustin. Alors, bien voir ça. Et puis, donc, les moyens qu'on va prendre, toujours voir, c'est souvent des résolutions dans l'ordre moral qu'on va prendre, essayer toujours de les joindre, de les mettre dans une atmosphère théologale. Dans une atmosphère de Dieu. D'où je vous dirais dans les résolutions tout à l'heure, c'est bien de prendre sur la prière, c'est bien de prendre dans votre devoir d'État, votre travail, en général dans vos relations avec autrui, de prendre une résolution. Des fois, ça se concrétise dans une seule résolution, parce que telle résolution, elle vous fait prier, elle vous fait adhérer au devoir d'État, elle vous fait avoir tel ou tel type de relation avec les autres. Mais surtout, et puis, bon, souvent le défaut dominant ou la qualité dominante, on a un défaut dominant, oui, mais... Pourquoi pas aussi la qualité dominante? Car souvent, vous avez les défauts de vos qualités. Ça devrait vous consoler. Allez, un gros défaut dominant. Oui, mais souvent, c'est parce que vous avez une qualité qui est derrière ça. Vous êtes, par exemple, un peu colérique, un petit peu dominateur, mais à part ça, c'est vrai que vous êtes quand même assez énergique dans l'action. C'est inévitable. Parce que jamais aucune vertu naturelle ne sera parfaite en soi si elle n'est pas liée aux vertus théologales. Voilà. Bien voir ça. Alors, il faudra que vous mettiez qu'il y ait une résolution aussi par rapport au motif de confiance. Parce que dans les résolutions, il faut prévoir l'échec. Oui, l'échec. Parfaitement. Alors, à quoi sert de faire des efforts? À quoi ça sert? Ça sert à vous appuyer de plus en plus sur le bon Dieu. Voilà. Notamment sur ce que dit le maître du combat spirituel. Confiance totale au Dieu qui ne va pas jusqu'à la présomption. Défiance de soi qui ne va pas jusqu'à la pusillanimité. La crainte excessive. Alors, voyons donc ce premier chapitre du combat spirituel. En quoi consiste la perfection? A. La vie spirituelle, ce n'est pas les rigueurs et les pénitences corporelles. Ah, ça peut en rassurer certains. D'autres, c'est plutôt chez les hommes, ça, mais ça peut exister aussi chez ces femmes. Plus c'est musclé, plus c'est pénitent. Pas toujours. Alors évidemment, si on a ce tempérament qui est des fois un peu rustre là, tout en muscle, tout en l'homme un peu bestial, j'irais, mais indépendamment, sans note péjorative du tout, hein, mais l'homme qui est animal, j'irais, vous voyez, le tout en muscle, là, tout en chair, alors lui, effectivement, il a besoin de beaucoup de rigueur corporelle parce que les instincts, les passions sont fortes chez lui. Alors bon, il peut songer aux disciplines, dormir par terre et je sais pas quoi. Bon, en général, la femme, dans l'ensemble, vous n'avez pas ce problème-là. Il en a qui cherchent la perfection d'une vie d'austérité, mortification de la chair, les cilices. Un cilice, c'est une, on n'a pas ça, rassurez-vous. Enfin, pas que je sache. C'est une espèce de manteau de crin, là, ça vous gratte un peu la peau, là, ça, bon. C'est les chartreux, souvent, qui portent ce genre de choses, ou les cisterciens. Les disciplines. Alors, le gros fouet, là, en fer ou en cuir, là, comme on voit, les pères du désert. Les veilles prolongées. Voilà. Les jeûnes. Et autres rigueurs et pénitences corporelles de ce genre. Ça, c'est ce qu'on appelle la mortification extérieure. Mais attention, là encore, j'ai pas du tout ça à pratiquer. Bah, très bien. Mais ça veut pas dire que j'ai pas à mortifier mon corps. Non. Alors, on verra, justement. Est-ce que dans ma résolution, je suis pas un peu un tempérament un peu sensuel? Donc, c'est ce côté-là qu'il faut que je travaille un peu. sans forcément faire des choses excessives. Saint François de Sales nous dit, c'est très simple, déjà supporter bien les intempéries, le trop chaud, le trop froid, le pas très confortable, ça mortifie un peu la sensualité. D'autres personnes, ah là ça vous intéresse, surtout les femmes, ah écoutez bien, bon ça résout un peu les bigotes de ce matin, enfin entre guillemets, se croient arriver à une haute perfection lorsqu'elles récitent un grand nombre de prières vocales. Elles entendent beaucoup de messes. On vous empêche pas d'entendre beaucoup de messes. Bon. Elles assistent à de longs offices, elles fréquentent les églises et elles communient fréquemment. Diplôme de sainteté. L'auréole. Bon. D'autres portent l'habit religieux et vivent dans les cloîtres. Ah, c'est pour nous, ma sœur. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour nous? Ils se figurent qu'ils ont atteint le sommet de la perfection s'ils sont exacts à assister au cœur, donc la vie régulière, c'est sûr, t'as une grande importance, ponctualité. Bon. S'ils observent le silence, voilà. S'ils gardent la solitude et s'ils sont fidèles à toutes leurs règles. Ça veut pas dire qu'il faut pas le faire, mais mettre sa perfection entièrement là-dedans, c'est nul. Il faut ça, mais il faut pas que ça. Voilà. C'est ainsi que pour les uns, la perfection consiste dans telle œuvre et pour les autres dans telle autre œuvre, souvent en fonction de notre tempérament. Alors c'est intéressant ici, la psychologie naturelle peut un peu intervenir, même si elle est déformée par le péché originel. Ben, les actifs vont le mettre dans l'activité, les plus contemplatifs dans la prière, voilà, etc. Les intellectuels dans la... ça travaille. Bon. Ces pratiques sont des moyens ou des fruits, mais non pas la vie spirituelle elle-même. Et ils sont excellents si on en use bien, avec sagesse, avec prudence, là où il faut, comme il faut. Ce peut même être des fruits si on a déjà en soi la vraie vie spirituelle. Les œuvres extérieures, dans lesquelles plusieurs placent leur perfection, peuvent devenir pour eux une occasion de ruine, en leur faisant négliger quoi? Leur intérieur. Alors, qu'est-ce que c'est que cet intérieur? L'intérieur. Eh bien, c'est cette visée, justement, cette pureté d'intention, ces actes, ces résolutions qui concourent à la gloire de Dieu, à notre perfection, mais en vue de la gloire de Dieu, à la charité pour Dieu. Elles s'égarent, voilà. Elles peuvent s'égarer même plus que si elles commettaient de vrais péchés. Pourquoi? Parce qu'elles sont un peu borgnes dans leur vie spirituelle. Ne pensant qu'aux pratiques extérieures, elles abandonnent leur intérieur à des mauvaises inclinations de la nature, à des pièges cachés. Ce rusé ennemi, voyant que ces âmes ne marchent pas dans le vrai chemin, les laisse se complaire dans leurs exercices. Il favorise les rêves de leur imagination, si bien qu'elles se figurent être transportées avec les anges dans les délices du paradis et croient jouir de la possession de Dieu. Parfois même, on les voit tout absorbées dans des méditations sublimes, intéressantes, délicieuses, au point qu'alors le monde et les créatures ne comptent pas pour elles. Elles se croient alors ravies au troisième ciel. Mais là n'est pas le vrai chemin. Quel est le vrai chemin? Eh bien, voici ce qu'il est le vrai chemin. En toutes circonstances, grandes et petites... Ah, non. En quoi consiste d'abord leur égarement, pratiquer des vertus qui sont pas correspondent pas vraiment à leur devoir d'état, à leurs besoins profonds devant Dieu. En toutes circonstances, grandes et petites, ils veulent qu'on leur donne une place de choix et qu'on ait pour eux des préférences. Ils tiennent beaucoup à leur manière de voir, éventuellement dans les choses de piété. Et ils sont très entêtés dans leur volonté. Ils sont aveugles sur eux-mêmes, aux aguets sur ce que disent ou font les autres. Bon, quand on commence à trop s'occuper des autres, il y a un problème. Bon, des fois c'est par devoir d'État, bien entendu. Mais s'occuper des autres au point que ça nous trouble intérieurement, quelque chose qui est pas, va pas, ne va pas. Si vous touchez tant soit peu à quelques points de leur vaine réputation dont ils sont si jaloux, et à laquelle ils tiennent tant auprès du prochain, si vous les empêchez d'une manière ou d'une autre leurs exercices habituels de dévotion, aussitôt les voilà tout bouleversés, ils se troublent plus qu'on ne peut le dire. Pour les amener à la vraie connaissance d'eux-mêmes, qu'est-ce que va faire le bon Dieu? Il va permettre qu'il y ait des épreuves dans leur vie, des petites œuvres révélatrices. Voilà. Ils vont avoir enduré une petite maladie, une petite contrariété, une persécution. Toutes choses qui apparaissent pourtant comme l'expression de la volonté de Dieu, puisque rien n'arrive sans son ordre ou sa permission. Aussitôt, ils font voir combien était fragile le fondement sur lequel ils s'appuyaient, et jusqu'à quel point leur intérieur était corrompu et gâté. Dans les événements heureux ou malheureux qui peuvent leur arriver, ils refusent de se résigner, de s'humilier sous la main qui les frappe. Ils ne veulent pas se soumettre sans murmure au jugement de Dieu, des jugements qui sont souvent plus ou moins cachés à nos yeux. Ils refusent de s'abaisser au-dessus des créatures, à l'exemple de Jésus-Christ. Ils refusent surtout de regarder ceux qui sont l'occasion de leurs épreuves, comme des amis qui vont leur faire gagner le ciel, et de voir en eux des instruments et coopérateurs que la bonté de Dieu permet. Ce que dit Padre Pio, c'est Dieu qui tire les ficelles. Nous, voyez, nous aimons bien régler le compte à quelqu'un. Voilà. Alors, ils avaient un problème matériel ou une personne, nous en prenons tout de suite à la personne, cherchons tout de suite, faut des noms, des accusés, etc. C'est pas surnaturel. Ça, c'est le réflexe naturel. La vraie réalité, c'est que le bon Dieu est derrière ça et permet ça. Oui. Bon. C'est donc une chose certaine, ils sont dans une situation illusoire. L'œil de leur âme risque d'être obscurci. Il risque d'être difficile d'être, de les mettre dans le vrai chemin. Alors, en quoi va consister la vie spirituelle? Si elle n'est pas dans les œuvres extérieures, si elle n'est pas dans ce mauvais fonctionnement par rapport aux épreuves ou aux prochains, en quoi ça consiste? Eh bien, d'un côté, et je vous fais remarquer au préalable, ce premier chapitre, c'est le fondement de toutes les œuvres de saint François de Sales. Lorsqu'on lui demandait, qui c'est qui votre directeur spirituel? Il sortait, il dit, voilà, il y avait ce petit livre, pfft. C'est ce petit livre que je porte depuis 18 ans sur moi. C'était le combat spirituel. Comment le si doux saint François de Sales, là-dedans on a l'impression que c'est le manuel du combat chrétien. Il y a plus de combat encore que dans l'imitation. L'imitation serait plus mystique, il y a de l'ascétisme dans l'imitation, mais c'est plus mystique, plus suave, plus haut. Là, c'est vraiment le manuel de combat. Au moins avoir la règle fondamentale. En quoi consiste cette vie? Bien connaître d'un côté la bonté et la grandeur de Dieu. Oui, perfection divine de votre premier jour de retraite. Et de l'autre, notre néant et notre inclination à tout ce qui est mauvais. Voilà. Et souvent, c'est vrai, quand on regarde le bon Dieu, puis on voit que on lui ressemble pas tellement, quoi. On a des traits vraiment très dissemblants. En gros, aimer Dieu et noyer nous-mêmes. Être soumis à Dieu, et non seulement à lui, mais aux créatures pour l'amour de lui. Savoir renoncer à nos volontés, quelles qu'elles soient, pour son bon plaisir. Savoir nous abandonner à lui. Et vouloir tout cela et le faire uniquement pour lui plaire, parce qu'il le veut ainsi, et parce qu'il mérite bien qu'on l'aime et qu'on le serve. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire quoi? Toujours cette pureté d'intention. Je vais vous donner une illustration de cela. Vous intéressez? Ça poursuivra ce que j'ai à vous raconter ce matin. Une jeune fille vient voir sa mère vient voir son prêtre. Elle lui dit qu'elle a enfin trouvé le jeune homme qui lui convient. Ah! Alors, ce jeune homme, elle énumère les qualités. Alors, il est intelligent. Ah, très bien. Il a un bon travail. Ah, très bien. Ah, il a des moyens aussi. Ah, très bien. Ah, il a un bon cœur. Ah, très bien. Alors, toutes les qualités y passent. Bon, évidemment, parce que le sentiment, parfois, bon. On idéalise un petit peu avant, un petit peu quand même. Et enfin, tout à la fin, elle dit, mais il est catholique, ce garçon? Ah oui. Ah bon, avant, c'était zéro, vous voyez. C'est 0, 0, 0, 0, 0. Maintenant, vous avez mis le 1 devant. Ah, il est catholique. Bon. Ah, très bien. Et à la fois, tout ça, c'est très bien. Il faut avoir des qualités humaines, c'est bien. Mais il est d'abord catholique. Ah, donc, l'orientation générale de sa vie est bonne. Alors, c'est pareil pour les actions. C'est une analogie, là, que j'emploie. Pour les actions. L'action peut être bonne, naturellement. Ah, tout est bien. Ah, les ennuis, elles sont pas faites pour Dieu. Elles sont faites, un peu pour soi, un peu pour les autres, enfin, un peu pour de l'humain. Alors, je dis pas qu'il faut faire de surnaturalisme, de l'angélisme. C'est clair. Mais il y a quand même une assez forte tendance dans notre époque au naturalisme, quoi. On fait les choses, ça semble bien matériellement, etc., hein, avec tous les moyens matériels aujourd'hui. Est-ce qu'il y a beaucoup de l'esprit du bon Dieu là-dedans? À vérifier. Oui. Bon, en tout cas, examinons-nous sur cette pureté d'intention. Voilà. Le but à atteindre, la loi d'amour que le Seigneur lui-même a gravée de sa main dans le cœur de ses vrais serviteurs, voilà le renoncement à nous-mêmes qu'il attend de nous. Et comment on l'atteint? Par un combat généreux. Donc il faut mettre, vous voyez, la résolution va avoir en vue sur quel terrain je dois attaquer, vous voyez, parce que souvent, nous sommes attirés par Dieu, c'est normal, nous sommes faits pour le bon Dieu. Il y a des choses qui freinent en nous. Alors, où est-ce que ça freine? Où est-ce qu'il y a des choses que je dois creuser pour le bon Dieu y rentre? Où est-ce que j'ai des pièces fermées? Voilà, j'ai les clés, là je tiens le trousseau, mais cette pièce-là, je ne veux pas l'ouvrir à Dieu. Je ne veux pas laisser la lumière de Dieu entrer là-dedans. Alors, où? À quel endroit? Et c'est en fonction de ça qu'il faut prendre nos résolutions. Voilà. Bon. Puisque telle est la perfection dont vous voulez atteindre les sommets, vous devez vous faire vous-même une certaine violence à vous-même. Il s'agit pour vous de combattre vaillamment vos ennemis et de mettre à mort toutes vos passions. Le gros travail, c'est nos passions. Alors, parfois on pense surtout aux passions corporelles, mais surtout toutes ces petites passions spirituelles là, enfin intérieures. Préparez-vous donc à ce combat avec toute l'énergie dont vous êtes capable, puisque ceux-là seuls seront couronnés qui auront combattu avec courage. Voilà. Alors, ça, vous aviez eu une instruction sur le combat spirituel, peut-être d'ailleurs le père l'abbé, monsieur l'abbé s'est servi ça, je sais pas, bon, peu importe. Alors, il va vous donner quatre moyens qui vont éclairer ensuite les conseils que je vais vous donner pour les résolutions. Voilà. Se défier de soi-même, mais ça, vous le faites parce que vous allez consulter, par rapport aux résolutions que vous avez choisies, vous allez consulter le père que vous avez visité pendant la retraite. Mettre toute votre confiance en Dieu et motiver cette confiance en Dieu, soit à travers la façon dont mon Dieu s'est conduit vis-à-vis de vous pendant votre vie, soit tout simplement parce qu'a priori, Dieu sait tout, Dieu peut tout et Dieu nous aime. Dieu sait tout, absolument tout. Le pourquoi, le comment, les causes et les conséquences, etc. Dieu sait tout. Dieu, il peut absolument tout. Rien n'est difficile pour lui. Dieu, il peut absolument tout et à tout instant. Et surtout dans les situations même les plus désespérées. Dieu sait tout, Dieu peut tout, Dieu nous aime. Voilà. Ça, surtout, pas l'oublier. Dieu nous aime. C'est pas, le chrétien, c'est pas « je pense donc je suis », c'est « Dieu m'aime donc je suis ». Ça, c'est le chrétien, c'est « Dieu m'aime donc je suis ». L'atmosphère dans laquelle on doit développer nos résolutions. Le bon Dieu est même, il voit ma bonne volonté. Vous êtes à la retraite, donc a priori, le bon Dieu, il veut vous donner les grâces que vous souhaitez, qui sont droites. Il le veut, plus que vous. Se défier de soi, avoir confiance en Dieu, s'exercer à la lutte. Voilà, la lutte spirituelle. Et d'abord dans des petites choses, mais on a besoin, pas une grande résolution. Commençons par des petites choses. Quatrièmement, prier, donc une intention sur la prière. Ensuite, il donne comme cinquième moyen, qui résume tous les autres, il nous dit, parce qu'il contient les grâces et les armes de tous les autres, la communion. Parce que la communion nous apprendra à nous défier nous-mêmes, à nous confier en Dieu. Et le bon Dieu nous indiquera où est-ce qu'il veut nous voir progresser pour faire grandir son règne en nous. Par rapport à cette perfection également, une autre erreur, c'est que nous imaginons que tout de suite le bon Dieu va nous faire franchir la perfection d'un seul pas. Voilà. Or, c'est pas comme ça. Le bon Dieu nous prend là où nous en sommes pour nous faire aller là où il veut que nous allions. D'où une résolution qui comporte un certain désir, une certaine intention. Voilà. Résolution que tes desseins sont grands. Voilà. Chaque saint a eu sa résolution particulière. Il y avait Saint-Simon Stylite, lui c'était sur une colonne. Saint-Louis c'était de vivre dans un palais comme un chrétien. Mais il est deux choses que tous indistinctement ont voulu comme saints. La fuite parfaite de soi-même et du péché, et le parfait amour de Dieu. Perfection relative, la seule qui soit possible en ce monde, c'est-à-dire adaptée à chacun. Plutôt mourir que de commettre la plus petite faute vraiment délibérée, faute vénielle j'entends, mais voulue. Plutôt mourir que de ne pas chercher en toute chose à plaire à Dieu et à l'aimer. Je ne puis pas égaler les saints dès maintenant dans l'héroïque observation de ces deux règles, mais je puis dire, leur but est le mien, à savoir la fuite parfaite du péché et le parfait amour de Dieu. Cette double résolution, eh bien, pourra se diviser à vouloir ne plus épargner les restes de péché, les restes d'habitude, et vouloir se faire un cœur contrit, humilié, vouloir acquérir un amour pur, accompagné du vrai mépris de soi, et mettre au centre de notre vie spirituelle la volonté de Dieu. Voilà, tout ce que vous faites en général, la plupart, plus ou moins, simplement c'est une question de purification, d'exercice. Mais il est impossible de faire cela, eh bien, si nous ne prions pas. Voilà. D'où il faudra nécessairement mettre une résolution qui concerne la prière. Voilà. Dieu veut que je prenne le pas de la perfection au lieu où j'en suis. Un parti très généreux de s'exercer à faire ce qu'ont fait les saints, mais dans la mesure voulue par la Providence. En même temps, le parti pris très sage d'être patient dans le travail, car ordinairement ce n'est que peu à peu et lentement que l'on arrive à la perfection. Mais tout en étant très patient, l'homme résolu introduit dès le commencement dans sa conduite des commencements de choses saintes. Un bon commencement, c'est la moitié du tout. Et si on recommence une deuxième fois, on arrive aux trois quarts. Voilà. Vu que jamais on ne devient parfait qu'en s'essayant à ce qui est imparfait. Être résolu, c'est donc s'appliquer à imiter les saints, mais dans la mesure proportionnée à nos forces actuelles, aussi bien physiques que psychiques et affectives, et avec le ferme propos d'avancer toujours, quoique pas à pas. Cela étant, j'aurai toujours le courage et la grâce d'avoir une âme résolue parce que le Dieu le veut pour moi. Alors, voilà, donc perspective un peu générale. Maintenant, vos résolutions. On va descendre dans des choses un petit peu plus concrètes avec ça, si vous voulez. Puis avec autre chose que je me suis servi l'année dernière, dont je vous donne la référence, ou il y a 2 ans, je ne sais plus, c'est la lettre au tertiaire de la fraternité Saint-Pie-X. On va le lire ensemble, c'est très bien fait. C'est extrait du père Colin, que connaissent ceux qui, les religieux connaissent bien en général ce père. C'est donc le tiers-ordre de Saint-Pie-X, le bulletin de liaison des tertiaires, de avril-mai 2005, au numéro 35. D'ailleurs, ça commence très bien. Je voulais en parler, ça me le rappelle. Un moyen très simple de vie spirituelle, très profond, nous en parlions ce matin avec l'une d'entre vous, c'est la sanctification du moment présent. Voilà. Vivre au moment présent. C'est incroyable. Dès que d'ailleurs on s'exerce à être au présent, on s'aperçoit qu'on est tout le temps dans le passé ou le futur. Quasiment. Bon. Mais on parle des résolutions en général avant de vous parler du moment présent. Je le dis en passant, parce que j'avais oublié que c'était ça s'y trouvait. Alors, la discrétion doit présider au choix de nos résolutions. Ni trop, ni trop peu. Et puis surtout, pas du tout. Non, pas du tout. Hein. Se garder des emballements de l'imagination, voilà, l'euphorie, et ou de la présomption. Mais aussi ne pas assez attendre de soi, hein, parce qu'on a un tempérament un peu pas incliné à la confiance, etc. Juste mesure, d'où l'importance d'en parler avec les pères que vous verrez, ou que vous avez déjà vus. Même après une fervente retraite, tout n'est pas possible ni réalisable. Il faut de la mesure en tout. Alors, vos résolutions, première règle, peu nombreuses. Peu nombreuses. Une pourrait suffire. Pas plus de 3 en général. En général. 3, vraiment le maximum. Parce que courir après 12 lièvres à la fois, on n'en attrape aucun. Comme disait un ministre de Sous-Pétain, là, il disait l'occupation, là, etc., il y en a qui ne voulaient tuer que du lion, attraper que des grosses choses, moyennant quoi ils ne tuaient même pas des lièvres. C'est-à-dire, on cherche que les grosses occasions de sanctification et on cueille pas ce qui nous est donné, qui serait assez facile. Voilà. On attend le martyr, mais on fait pas le petit martyr quotidien. Parmi la multitude des résolutions possibles, il importe d'en dégager quelques-unes qui soient les meilleures, les plus nécessaires pour vous, qui c'est pas celle du voisin. Les meilleures, les plus nécessaires, les plus fécondes. Celles qui vont vraiment vous faire avancer. Voilà. Hein. Souvent, je vois un de nos pères, je crois que c'est Pierre Crispin qui dit ça. Quand vous avez mal au bout du nez, vous n'allez pas mettre un pansement au bout de votre pied. Bah oui, c'est du bon sens. Mais en effet, il y a des choses qui ressemblent un peu à ça dans les résolutions. Hein. Ouais, mon défaut du moment, c'est la colère, mais je vais prendre aucune résolution sur ma colère. Non. Bon. Des résolutions claires et précises. Alors, pas du général, pas du vague, pas du flou. Il paraît, par exemple, je crois que c'est au Pointet qui faisait ça, vous êtes un petit peu impatient, un petit peu colérique, un petit peu précipité, etc. Très simple, vous allez monter les marches une à une, fermer les portes calmement, les ouvrir calmement et les fermer calmement. Ben, vous connaissez un jeune homme, là, une force de la nature, il disait... Mon père, quand la maison est un peu petite, et puis j'ai besoin de mouvement, à chaque fois j'ai envie de défoncer les portes. Un gaillard d'1m95, là, bon. Bon. Alors. Voilà. Petite chose. Plus elles seront précises, plus notre travail gagnera en qualité, et plus notre contrôle en sera facilité. Ça peut être bien les écrire. Les écrivez. Puis les relire aussi. Oh, des fois, j'ose pas relire parce que, oh, là. Déjà bleu ou vert de voir que je les ai pas trop mises en pratique. Bon. Chez beaucoup d'entre nous, la pensée n'a de luminosité que couchée sur le papier. Voilà, exprimée, on va dire, sur le papier. Et moyen aussi de suppléer aux défaillances de la mémoire. Vous voyez, quand on soit les enfants, c'est assez amusant, après une confession, on demande, bon, tu as fait un petit effort là, sur quoi tu avais prévu? Ouais, je me souviens plus bien. Alors je leur dis, ouais, si tu te souviens plus bien, c'est que t'as pas dû beaucoup faire d'actes dans la direction. Hein. Ouais, bon. Bon, parce que un effort qui coûte, on s'en souvient. Un effort qui coûte, on s'en souvient. Des résolutions ensuite, autre qualité, adaptées à notre personnalité morale. répondant à notre état d'âme, nos besoins, nos difficultés, nos attraits, pas oublier les attraits, hein. Soyez, c'est très bien, c'est vrai, dans les exégètes, c'est très réaliste, parler du défaut dominant. Oui, c'est bien. C'est bien. Bon. Le défaut dominant, ceux qui bataillent contre le défaut dominant, ils ont tendance, des fois, à être un peu, d'avoir, ne voir que le défaut dominant, alors qu'ils ont des qualités autour. Voilà. Et ils s'auto-découragent. Ça, il faut pas. Saint François de Sales dit, oui, le défaut dominant, mais examinez les petites victoires que vous avez eues sur lui. Une petite victoire par jour. Ou deux petites victoires. Voilà. Est-ce que je me suis laissé faire complètement par ma tendance dominante, déviée, mauvaise, franchement mauvaise ou déviée? Non, ah j'ai résisté, une, deux, trois fois, tant bien, c'est bien, considéré comme victoire. Souvent aussi, tempérament, ils examinent dans l'examen, ils voient beaucoup plus la demi-défaite que la demi-victoire. Tempérament, c'est comme ça, le pessimiste, c'est une demi-défaite, l'optimiste, c'est une demi-victoire. Bon, c'est mieux peut-être dire... Il y a une résistance positive. Bon, je suis tombé, d'accord, léger ou grave, malheureusement parfois. Ah bon, mais ah, j'ai résisté, ah, j'ai travaillé, ah, je suis tombé moins facilement. Ah, donc comptez-le comme une victoire. Bon, évidemment, ceux qui vous connaissent, toujours intéressant, et qui vous aiment en même temps, il faut les deux. Donc, des proches qui veulent se sanctifier, le prêtre, bien sûr, qui vous suit, si on a un qui suit, le directeur spirituel vous aidera, bien sûr. Si vous en avez un, de toute façon, je pense qu'on a dû vous encourager en confession. À... Même directeur spirituel, on n'est pas obligé de le voir tous les mois. Hein. Bon, si même il y en a, ils sont très loin, on peut le voir tous les 6 mois ou tous les ans. Mais ce qui compte, c'est que on peut même écrire au besoin, mais qu'il y a un travail profond qui se fait, des règles précises, puis qu'on puisse se rapporter à lui s'il y a une difficulté. Réfléchissons, prions, consultons. Voilà. Ces résolutions, les renouveler. Donc il faut des occasions pour les renouveler. Alors, nous vous disons, par exemple, nous, je pense qu'eh bien, à l'occasion du premier samedi du mois, ou du vendredi du Sacré-Cœur, comme vous voulez, voyez où vous en êtes de ces une ou deux résolutions que vous avez prises. Les renouveler. Et ce qui serait bien, évidemment, ce qui serait idéal, c'est à travers une devise ou une oraison jaculatoire, le renouveler même chaque jour, si on veut. Voilà. Pour alimenter le feu. Parce que nos décisions, même les plus vigoureuses, ont tendance à fléchir et à se dégrader, à s'évanouir dans l'oubli et le marasme. Voilà. D'où besoin de les reforger, se remotiver. Voilà. L'ossature, le squelette, un petit peu, je dirais, même de la simple psychologie, vous voyez, psychologie chrétienne autant que possible, mais toujours voir où nous en sommes de nos convictions. Les convictions. Est-ce que je suis quelqu'un de convaincu? La foi, la conviction, et la nourrir cette conviction, lecture spirituelle, oraison, etc. Conviction intérieure, là, ma conviction. Voir où j'en suis de mes motivations, le moteur, voilà. On vous le dit aujourd'hui, là, dans les affaires, là, le marketing et je sais pas quoi, là, positiver et compagnie. La motivation, quand les entretiens, là, j'entends souvent ça, ils ont des entretiens. On regarde vos motivations. Vous pensez pas que c'est très vrai du point de vue naturel? Ça l'est encore plus du point de vue surnaturel. Donc, me remotiver surnaturellement. C'est à ça que sert la retraite, notamment. Ou la récollection mensuelle. Remettre de l'essence dans le moteur. Voilà. Donc, conviction, motivation, décision, et à partir de quoi? Résolution. Décision. Décision fondamentale. Et puis, en fonction de cette décision fondamentale, on prend des résolutions. Les moyens. Tac, 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 tac. Sachons reprendre ces résolutions à la fin de nos oraisons, à la fin de nos communions, dans nos principaux exercices spirituels. Oui. Des choses qu'il faut demander pendant des années, sans se lasser. On recommence. Mais mon père, je tombe toujours à la même faute. Oui, moi j'ai à la maison une chaise bancale, elle est toujours bancale du même côté. Ben nous, c'est ça. Voilà. Et dites-vous bien, le Père Eugène n'aimait pas qu'on dise que nous, on fait toujours les mêmes fautes. Nos fautes ne sont jamais tout à fait les mêmes. À raison des circonstances, à raison de notre âme. Oui, il y a une lassitude, un facteur d'être blasé. C'est jamais tout à fait les mêmes. Jamais tout à fait les mêmes. Voilà. Donc, savoir maintenir notre bonne volonté en haleine. Les contrôler, et encore mieux, les faire contrôler régulièrement. Voilà. Dans votre confession mensuelle, par exemple. Voilà. Si nous vivons, bien sûr, d'une vie intérieure profonde, la conscience, toujours en éveil, ce contrôle s'exercera instantanément à chacune de nos fautes. Il est bon toutefois d'établir un contrôle plus général. Voilà, examen particulier. Bon. Des fois, c'est le bon Dieu qui fait faire l'examen, ou les autres. Afin de ne pas surcharger et compliquer la vie spirituelle. La question de l'examen, peut-être on a parlé dans la confession, je ne sais pas si c'est une intrusion sur la confession, bon, l'examen, ah, pour certains c'est la torture. Cet examen particulier, on sait en gros dans une journée si ça a marché chrétiennement ou pas marché, quoi. On le sait. Il ne s'agit pas de repasser toute la journée en revue, vous êtes fatigué, la tête comme ça. C'est souvent, mettre sa prière au tout dernier moment, son examen de conscience au dernier moment, c'est une gageure, quoi. Non, pas faire ça. Prenez un moment, soit au moins un moment une fois par semaine, au minimum, et puis chaque jour, bon, vous regardez en gros, ouais, bon, est-ce que la journée était globalement bonne? Oui, est-ce que je me mets quoi? J'ai la moyenne ou j'ai pas la moyenne? Bon, en gros, globalement bon. Bon, des fois, on sait pas très bien, c'est vrai, mais et telle faute, mais qui est significative? Ah, je suis tombé 10 fois. Il y a des fautes qu'on a commises 10 fois qui n'ont aucune signification. Parce que c'est dû, il y a eu de l'énervement, la fatigue, c'était un premier mouvement, c'était pas. Mais il y en a une, on a fait une. Et en plus, des fois, c'est le bon Dieu ou le prochain qui nous a révélé ça. Voilà. Ah, je suis impatienté sur ça. Bouh, ça valait pas la peine. Voilà. Bon, examen. Alors, bon, on se dit à soi-même, on regrette un peu, on remercie. Ah, on oublie ça aussi, l'examen. Hein. Examen, toujours les fautes. Pourquoi pas dire merci pour les petites victoires et pour que le bon Dieu les continue demain? Remercie aussi. On peut prévoir un petit acte de réparation ou on continuera demain. Conçu et pratiqué avec générosité, les résolutions deviendraient le prolongement naturel et l'heureuse sanctification de nos retraites. Voilà. Et c'est la sauvegarde assurée contre la torpeur spirituelle. À quoi allons-nous nous décider? Eh bien d'abord, sur nos péchés principaux de propos délibérés, ceux qui reviennent le plus souvent. Voilà. Pour assurer la stabilité et la persévérance. S'il se rencontrait encore dans ma vie des péchés mortels, évidemment, c'est là-dessus qu'il faut travailler. Ou bien des fautes mortelles, des fautes véniales délibérées, trop fréquentes. Bien, le but, ça ne veut pas dire « je vais tout supprimer, tout arracher, travaillez-y ». Dans un temps que Dieu aura décidé, il l'enlèvera. Mais je vais travailler à les réduire, sérieusement. Alors, décision immédiate peut s'imposer, suppression totale ou définitive, lorsque c'est l'obstacle le plus grave à la divine délection. Il faut arriver peu à peu à mettre notre... Vous voyez, pour des personnes qui font à peu près habituellement des retraits, habituellement ça peut être de 3 à 5 ans, j'en sais rien, 3 ans, ça fait, c'est bien, 3 à 4 ans, bon. Chaque année serait parfait. Bon. Mais il faut arriver à cet état d'âme, peu à peu, d'être prêt à tout souffrir et mourir plutôt que de commettre un péché véniel délibéré, pleinement délibéré. C'est un refus d'amour Dieu. Et dites-vous bien que si un ange au ciel ou un saint... Il faisait un péché véniel dans le ciel, on lui donnait un gros coup de pied dans le derrière pour sortir du ciel. Pourquoi? Parce que c'est une indélicatesse. Voilà. C'est pas en matière grave, vous n'allez pas vous damner, d'accord? Mais il est parfois plus grave pour certaines âmes d'avoir constamment des péchés véniels délibérés qui les font vivre dans la tiédeur que de tomber accidentellement, vraiment accidentellement, une fois dans le péché mortel. Pourquoi? Parce que le péché véniel délibéré endort la conscience. Et alors, pour le coup, c'est le meilleur moyen pour qu'un jour le péché mortel vous tombe dessus, ouais, et vous n'aurez pas de force de réaction parce que vous aurez pris l'habitude de ne pas réagir devant le mal, même véniel. Et souvent, malheureusement pour nous prêtres, pour nous religieux, c'est comme ça que le démon, il nous a. Ah, tu es négligent dans telle chose. Alors, il commence par envoyer des petites choses, puis après, il envoie le gros, là, pour nous faire tomber. Parce qu'on est négligent. Vous voyez, rappelez-vous toujours, on a besoin de s'en souvenir dans la crise actuelle. Dans cette atmosphère de théologie moderniste et libérale, mais aussi de spiritualité moderniste libérale. Le signe de l'amour de la vérité, c'est la haine contre l'erreur. Voilà. Quand on aime la vérité, on hait l'erreur. Parce que c'est... Le signe de l'amour de charité, c'est la haine contre le péché. Voilà. C'est pour ça que les plus saints, ils ont plus, quand on entend le Padre Pio, Saint Louis de Gonzague, Saint François, une horreur. Mais parce qu'ils aimaient, bien sûr. C'est d'accord. Il ne s'agit pas de s'hypnotiser seulement sur la haine du péché. On est d'accord. Mais ils ont eu cette intensité. Voilà. Péché, et on a une braise intense dans le cœur, et pas mettre le péché sur ce braise. Voilà. Donc travailler doucement à acquérir ça, à le demander comme grâce. Car dans nos résolutions, il y a une partie qui est l'effort personnel, et une partie qui est la grâce de Dieu. Et notre effort personnel, il est soutenu par la grâce de Dieu. Ça peut être une résolution sur les confessions. Voilà. Voilà. La confession, pour certains, c'est une torture, alors que ça devrait être un soulagement. Puis des fois, les conditions matérielles sont, il est vrai, un peu difficiles dans certains prieurés. En tout cas, soignez vos confessions. Voilà. Pas à la manière scrupuleuse, hein, mais dire un péché, voilà, tranquillement. Si on est scrupuleux, pas plus de 2 ou 3 péchés, 5 maximum. Voilà, 1, 2, 3, après c'est fini, ça va, c'est fini. Scrupuleux, pas besoin de plus. Regrettez ce que vous voyez, comme l'iceberg. Regrettez d'abord ce que vous voyez, cherchez pas à chinoiser pas avec le bon Dieu. Vous voyez ça, commencez par regretter ça. Quand vous aurez bien regretté ça, il n'y aura plus d'iceberg en surface, le bon Dieu fera remonter le reste. Bon, pas d'inquiétude. Sur le culte eucharistique, très bien. Bon, très spécialement sur la charité fraternelle, car nous avons tous un effort charité fraternelle à faire, tous. Parce que c'est inné en nous, l'égoïsme. Si nous constatons de manquements fréquents et graves à cette vertu, médisance, la langue, les jugements intérieurs, et pour améliorer nos relations fraternelles, prenons quelques solutions pratiques et précises. Ensuite, il donne un petit... Il peut poser des questions. Quelles étaient nos résolutions? Alors, on va demander, là, c'est toujours, si la retraite vient passer. Hein. Les retraites, vous savez si elles sont bien passées dans un an. Mais vous pouvez toujours dire, ah oui, c'est intéressant, je me suis pas trop ennuyé, ou je suis beaucoup ennuyé, ou ça a été dur, bon, d'accord. Mais le résultat, c'est, vous allez voir, si vous mettez en pratique ce que vous avez, le signe d'une bonne oraison, d'une bonne retraite, bon, des choses se mettent en place. En prévoyant l'échec humain, qui est pas l'échec divin, l'échec humain. Elle n'est peut-être pas arrivée. Mais souvent, quand vous avez un vrai désir, et que c'est bien ça que le bon Dieu vous demande, et que vous n'y arrivez pas apparemment, le bon Dieu fait pousser des petites fleurs ailleurs. Devenir plus patient, plus confiant, plus détaché de vous-même. Dites-vous ça. Quand ça ne marche pas quelque part, et pourtant que vous avez bonne volonté, dites-vous, le bon Dieu est en train de faire un travail ailleurs. Que je ne me rends pas bien compte, mais il est là. Croyez à ça. Vous voyez, climat de confiance fait ça. Voilà. Quelle influence ont-tu dans les retraites précédentes, mes résolutions particulières? Est-ce que ça a été profond, durable ou bien superficiel et éphémère? Pourquoi? Pourquoi ai-je fléchi, etc. Bon, on vous dit souvent les retraites Saint-Ignace, là, c'est... D'abord, c'est là, très facile. Enfin, bon, puis après, ça... Bon. Après quelques semaines, quelques mois, pourquoi ça finit par s'évanouir? Bon, pourquoi c'est stérile? Pourquoi est-ce que j'ai manqué de précision ou de contrôle ou de générosité? Est-ce que je me suis lassé? Est-ce que j'ai eu peur de l'effort? Est-ce que je me suis découragé? Voilà. Alors, c'est des choses que vous dire à vous-même, puis en parler avec celui qui vous aide spirituellement. Bon. Le père jésuite, un père jésuite que me servait pour faire une retraite, disait, lui, à son avis, il parlait pour des religieux, donc a fortiori peut-être aussi pour vous, il me semble, il disait, une résolution sur ma façon de prier, une résolution sur mon devoir d'État, et une résolution sur l'endroit où le démon m'attaque le plus du point de vue de la confiance. Qu'est-ce qui me met dans le trouble? Pour le prévenir. Il faut calfeutrer à cet endroit-là. Parce que quand il a eu la confiance, il a tout, le démon. Quand il a enlevé le ressort de la confiance, il a tout. Alors, à quels endroits, qu'est-ce qui est chez moi occasion de trous, de défiance, de dépression, de ça va plus, là, tout à coup, de désolation? Ou est-ce par quelle fissure il entre de façon habituelle? Et là, il faut calfeutrer. Voilà. Je dirais même, il faudrait prendre des résolutions pour nos temps de désolation et d'aridité. Voilà. Pas forcément dire, je vais avoir une patience héroïque. Non. Zen, non. Parce que aridité, sécheresse, c'est pénible et on peut pas être zen. D'accord. Mais, confiance. Quand ça va pas du tout, il y a encore raison d'espérer. Voilà. Théophane Ménard. Vive la joie quand même. Avoir une petite devise, hein, ça peut être bien, hein, une devise mot d'ordre. Hein. Bon, il y a une religieuse, c'était « Tralala, la Trinité est contente ». Bon, c'est original. Hein. Bon. Bon, celle qui vous convient. Ouais, c'est un mot d'ordre. Bon. Moi, j'aime bien, attendez, qu'est-ce que j'aime bien? Moi, c'est... attendez. Alors, confiance, courage, contre les orages, voilà. Et puis, il y avait autre chose. Malgré les outrages, voilà, c'est un peu poétique, ça peut aider, ça me rappelle beaucoup de choses, ça évoque beaucoup de choses pour moi, mais bon, ça marche pas toujours, hein, mais il faut garder la confiance quand même. Bon, mon Dieu, vous savez tout, vous pouvez tout, vous m'aimez. Voilà. Mon Dieu, après tout, c'est vous qui m'avez créé, c'est vous qui voulez me sanctifier. Voilà. Bon, vous savez que je suis pétri de misère, le père Capucin, nous sommes pétris de misère. Bon, oui, c'est ça, c'est tout à fait ça, c'est une pétrie de misère. Bon. Voilà. Donc, bien s'avenir de ça, vous voyez, bien, rien n'est, Oui, les temps, nos temps d'impuissance, c'est des temps de sanctification. Bien, bien persuadé de ça. Vous voyez, dans l'amour et silence, là, le premier chapitre ou deuxième chapitre, il dit, faut qu'on vraiment, le véritable esprit chrétien, c'est de faire feu de tout bois, y compris nos échecs, y compris nos péchés. Ça, c'est grand secret de vie spirituelle. Et il faut le demander à Dieu. Oui. De ce côté-là, le Sainte Vierge Marie peut beaucoup nous aider. Bon, je vais quand même regarder avec vous, bien que vous le ferez, mais c'est de façon très générale, ce qui vous est donné, là. Alors, ça peut sembler étrange, la prière du matin, prière du soir. Ah, mon chrétien, moi je dis toujours, il devrait faire sa prière du matin, du soir, comment ça se fait? Ah, prière du matin. On ne se couche pas à l'heure, on ne se lève pas à l'heure, on ne dort pas assez. On est déjà dans le starting block dès le lever. Pas pour faire la prière, hein, mais le starting block dans le cartable, dans je sais pas quoi, le train, le bus, mes affaires, etc. Hein? J'ai mon père, j'ai pas le temps de faire ma prière du matin, les enfants. Dis donc, ce matin, t'as fait ta toilette? Oui. T'as pris combien de temps là pour te gratter le bout du nez là parce que t'avais un petit bouton? Bon, combien de temps? Ben oui. Et puis t'as touillé là ton café là pendant parce que t'étais à moitié endormi. Ça fait combien? Chronomètre, ça, un petit peu. Bah, ça fait, oh, mon père, ça fait que 2 minutes. Ah, 2 minutes, c'est le temps d'un pater avec Gloria, dit à haute voix et lentement. T'avais pas le temps? Mon œil. Bon. Je voulais pas trop parce que je suis un feignant. Oui. C'est plutôt ça. Bon, je leur dis pas toujours ça, faut pas les enfoncer, les pauvres. Mais bon, un peu ça, quoi, quand même. Donc, prière du matin, du soir. Celui qui a le premier moment, c'est celui qui aura la journée. Si c'est le démon, il dit le curé d'Ars, par la paresse ou par autre chose, il a la journée. Il va nous faire des crocs en jambes dans la journée. Matin, soir. Et le soir. Le soir, faut qu'il y ait, vous faites, certains d'entre vous, maintenant, et c'est sûr qu'il y a les bip-bip, là, puis les quartz, et je sais pas quoi, mais faut remonter le réveil de l'âme. Voilà. La prière du soir, c'est je remonte le ressort pour demain matin, et pour la nuit, pour demander les bénédictions du bon ange. Bon, la prière en famille, ça dépend du conjoint ou de la conjointe. Bon, mais ça peut être bien, il faut qu'il existe une petite prière en commun. Ah, mais moi je prie mieux tout seul. Pas d'histoire, priez bien tout seul, mais il faut prier aussi à deux, ou en famille. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est un garant, ça fait grandir la grâce sacramentelle du mariage. Même des chrétiens où il y a eu des séparations, est-ce que vous priez avant de vous être séparés? Est-ce que vous priez ensemble? Oh ben non, on n'a jamais prié ensemble. Et même des fois, des vieux ménages catholiques, ils n'ont jamais prié ensemble. Après, on s'étonne qu'on n'a pas atteint une intimité, une profondeur en Dieu en commun. Ben oui, bien sûr, on n'a jamais prié ensemble. Ah. Puis en plus, ça fait un bon examen, j'ai dit à l'une d'entre vous tout à l'heure. Parce que quand on prie en commun, si on s'est fâché avant, on n'a pas trop envie d'aller prier ensemble. Bonne façon. Vous aviez besoin d'un examen, vous l'avez là. Il vous est fourni tout de suite. Donc on va se pardonner juste avant ou juste après. Pas se coucher là-dessus. Bon, l'oraison, avec un quart d'heure d'oraison, on est moralement assuré du salut. Saint Alphonse, Saint Thérèse d'Avila. Alors, reprenez votre méditation, avec un livre, sans livre, peu importe. Mais soyez là, au rendez-vous. Ah, je suis à moitié endormi. Bon, lui, le bon Dieu, est pas endormi. Il vous sait là. Le chapelet, bon. Bon, les petites prières, être attentif aux petites prières, des petits rendez-vous. Et la pratique des oraisons jaculatoires, très bien. Certains, ça les aide beaucoup. Les durs spirituels. Pas avec un livre qui nous barbe, si possible. Alors, je pense actuellement, dans la vie actuelle, pour sûr, surtout une vie active, prenez des livres avec, bon, sauf si vraiment vous êtes accroché, lecture, vous aimez, vous avez un thème que vous aimez, des livres avec des pensées. Parce que ça, c'est facile. On peut pas dire, j'ai pas eu le temps de faire ma méditation. Avant, il y avait, Pensez-y bien. Un petit livre, ça s'appelle Pensez-y bien. 2 minutes. Vous lisez ça, vous avez une bonne pensée en tête. Ou alors maintenant, les post-it, là. Hein, sur votre réfrigérateur, ou je sais pas où, dans votre bureau, là. Mais vous écrivez une belle pensée, puis vous la mettez devant vous. Vous l'aurez vu une fois. Voilà. Pris une petite goutte d'eau qui vous rafraîchit l'âme. Bon, la vie sacramentelle, messe, communion, confession régulière. La fréquence des confessions devrait être normalement mensuelle chez un bon chrétien. On peut faire plus. On peut faire une fréquence plus réduite. Mais au-delà, je trouve, bon, 5e semaine, 6e semaine, zone rouge. Tous les mois, c'est pas mal. Moi, j'ai rien à dire. Ou j'ai tous les jours la même chose à dire. Ça fait rien. Faites quand même. Croyez à la grâce sacramentelle. La vertu spéciale à cultiver, voyez. D'ailleurs, elle s'était mise en premier, voyez. Ah, très bien. Vertu spéciale à cultiver. Lutte contre le défaut dominant. Bon. Si vous, il y en a, l'année dernière, plusieurs personnes. Je trouve pas mon défaut dominant. Même en interrogeant mes proches, moi-même, pas vraiment. Bon. Alors faites comme disait le père Thomas d'Aquin, du Brésil, là. Quand vous ne savez pas par où commencer, que ce soit pour les paresseux quand ils ont beaucoup de travail, ou que ce soit pour une résolution, quand vous voulez tirer un bout du tapis, vous prenez un bout du tapis, tout le reste va venir avec. Donc vous commencez par quelque chose que vous voyez. Ça, il me semble, c'est important. Tôt ou tard, vous tomberez sur votre défaut numéro. Le devoir d'État, ni à côté, à droite, à gauche, ni au-dessus trop, ni en dessous. Ça, le travail du démon, nous faire dévier de notre vrai devoir d'État. Avoir vraiment conscience que notre premier devoir. La question de l'emploi du temps, les couchers, les levers, le temps de sommeil suffisant, une nourriture équilibrée. Vous avez, pour les ménages en tout cas, là, la petite plaquette de Monsieur l'abbé de Lagneau pour une vie de foyer équilibrée. Là. C'est paru il y a 2-3 ans. Là. Ça représente la Sainte Famille, c'est bleu ciel. Là. C'est dans un édité à part de Marchand Droit. C'est très bien. Il y a plein de conseils pratiques. Ça va être père de l'abbé de Lagneau ou le père Benoît qui a dû rédiger ça. C'est très bien. Emploi du temps, espérément des temps perdus. On n'a jamais été aussi vite dans les choses et on n'a jamais autant perdu de temps. Surtout pour la sanctification. Les devoirs en famille, d'accord, la charité fraternelle. Les esclavages. Ah, la télé, le portable. Ah oui. L'esclavage du portable. Bon, attention à ça. Hein. Bon. Faisons attention que ce qui devrait nous libérer ne devienne pas un esclavage, hein, du point de vue des moyens. Bon, la télé, je pense que surtout ceux qu'on fait Saint-Ignace, j'ai pas besoin de leur donner grand détail. Bon, le tabernacle du diable, le cinéma, les sorties mondaines inutiles, bon, le téléphone. Ah oui, téléphone, fumée un peu médisante ou la langue trop longue. Combien de temps vous parlez au téléphone? Ah ça, il y en a qui ont à s'exercer là-dessus. Bon, bon l'internet, bon, ça peut être les dames, mais c'est plus souvent les messieurs qui sont un peu trop... L'ordinateur, ah, la puissance, l'ordinateur, hein. Bien ça. Bon, attention ça, attention. Pas seulement pour l'immoralité, mais je dirais, c'est une absorption de temps, ce truc-là. Bon, on a plein d'informations, on a plein à la tête, ça n'épanouit pas forcément votre intelligence, et puis ça dérègle l'imagination. Vous savez, l'intelligence, comment elle devrait fonctionner? Comme les diapositives. On voit une image, et on en extrait ce qu'il y a d'intelligible. Or aujourd'hui, c'est le kaléidoscope. Le film Grande Vitesse, là, comme en 1900, Charlie Chaplin. C'est ça. L'intelligence, elle n'a pas le temps de s'arrêter. Défilé d'images, d'impressions, etc. Comment voulez-vous avoir une vie spirituelle avec ça? Bon, les cigarettes, il y a souvent souffrance à s'arrêter de fumer, je ne sais pas. Bon, mais on peut se travailler à réduire cela, bon, au moins. C'est quelque chose de physique aussi, cela, donc à voir. L'alcool, bon, je ne sais pas. Non, ce n'est pas forcément... mais bon, le petit apéritif trop régulier, par exemple, bon, bien, qui devient absolument nécessaire. Bon, des fois, c'est un tonique pour certains, mais attention. L'excès de nourriture, bon, qualité, quantité, les friandises. Bon, la coquetterie, la moche, je suppose, femme chrétienne, femme mondaine, il a dû largement développer, j'ai pas besoin de beaucoup m'arrêter. Bon, c'est sûr, vous avez un apostolat, hein, chère dame chrétienne, un apostolat de ce point de vue-là, quoi. Que les êtres humains sachent ce que c'est qu'une vraie femme. Une vraie mère, une vraie épouse. On en a besoin. Et surtout l'homme en a besoin. Les femmes entre vous, bien sûr, mais l'homme en a besoin. Voilà. Ensuite, les revues mondaines inutiles. Mondaines. Ah, mondaines, ouais, pourquoi? On ne met pas revues mauvaises, mais revues mondaines. Comme disait Mgr Feulet, qu'est-ce que c'est que la perversité du monde? C'est de vous faire un pas dans sa direction, qui est en même temps un pas vers le démon. Qu'il s'agisse, bon... C'est peut-être plus évident quand il s'agit de Paris Match. Mais je peux donner des noms. Même le Figaro Magazine ou des choses comme ça, il y a des choses malsaines là-dedans. Malsaines. Il peut y avoir des informations. On me donne souvent d'ailleurs des articles intéressants de Figaro Magazine. Les articles... Ah donc, mon père, faut le lire. Et... À très petite dose et pas de façon habituelle. C'est mondain, ce truc-là. Des choses mondaines. Et en plus, il y a des pensées qui sont fausses, en plus. Des articles, c'est complètement tordu. Bon, je parle... J'ai rien de spécial contre cette revue-là, mais les revues de ce type. Bon. Mondanité. Elle nous tue, la mondanité, nous catholiques, elle nous tue, quoi. Bon, formation religieuse, la doctrine. Bon, bah, ça, vous prévoyez un livre à l'année, enfin, sur l'année, un livre. Les conférences de Mgr Lefebvre sont dans l'ensemble assez faciles. Quelque chose d'écriture sainte, bon, à travers les psaumes, ou Don Mon Léon est assez facile à lire. On ne peut pas tout faire, donc vous choisissez une chose, un type de chose à faire. Apologétique, ça, c'est surtout pour ceux qui font de l'apostolat, en milieu. bon, souvent étudiants, mais même, je pense, les milieux médicaux ou autres, on peut avoir des choses à dire. Il faut être formé dans sa partie, quoi. C'est normal que vous soyez compétent chrétiennement dans votre partie. C'est pas normal que vous soyez bête à manger du foin sur les choses qui concernent votre profession. C'est votre devoir d'être formé là-dessus. Et pour l'action, on peut pas tout faire. Donc, l'exemple, d'abord, ça fait de mal à personne. Et bon, toujours l'exemple, famille, hein. Bon, l'aide individuelle, les prêtres, l'action caritative. Bon, attention, ceux qui sont très actifs. Si mon fils, si ma fille pouvait être aussi généreux à la maison qu'il est, je sais pas moi, au MJCF ou au scout. Un équilibre dans les choses. Le devoir d'État commence à la maison. Ça veut pas dire, certains, c'est le devoir d'État commence à la maison, finit à la maison et ne peut pas avoir autre chose que la maison. Attention à ça aussi. Mais enfin, c'est pas quand même la tendance d'ensemble. Bon. Visiter les malades, les personnes âgées, les pauvres, bon. Un pauvre matériel ou pauvre d'esprit, enfin d'ignorance, etc. Le soutien matériel, bon, je pense que ça, on vous pompe assez dans la tradition. Les écoles, le denier du culte, les œuvres. Non, mais je parle pas spécialement de la fraternité. Nous aussi, on pompe. Hein. Bon, mais bon. Mais bon, ça, vous faites selon vos possibilités en ayant la hiérarchie des devoirs. Oui, il faut l'aumône, mais il s'agit pas de s'appauvrir, même pour les œuvres de tradition, quelles qu'elles soient. Bon. Les prieurés, les écoles, les séminaires, les communautés, les mouvements. Bon. L'apostolat organisé, ça, bon, d'accord. L'action des catholiques dans la cité. Bon, c'est souvent, assez souvent, comme dans l'ensemble, plutôt les hommes qui aiment beaucoup tout ce qui est politique, mais l'action sociale, civique, dans sa profession, dans son quartier, dans sa vie. Par rapport au choix qu'on doit faire par rapport à ça, il me semble, si on est appelé à avoir une certaine action sociale, qu'elle, souvent, elle devrait plutôt partir du métier qu'on exerce. C'est-à-dire que la nécessité, par exemple, de notre enseignement ou de notre vie dans la profession médicale ou dans une matière technique ou autre, fait qu'on est amené à rencontrer d'autres catholiques qui ont les mêmes difficultés que nous dans la profession. Et alors, bon, ça nous pousse peut-être à voir. Donc ça pousse dans le devoir d'État. Bon, maintenant, pour d'autres, au contraire, ce serait plutôt de faire une action qui n'a rien à voir, parce que c'est à la fois, bon, une détente, quelque chose, mais attention à ce moment-là à la proportion. Il ne faudrait pas que l'apostolat empêche de bien accomplir son devoir professionnel et familial. Bon, nous rendons pour 5 minutes à la chapelle.